Philosophie éthique, l'éthique chrétienne, par le père Marie-Dominique Philippe, le 11 décembre 1998 à Saint-Jean-d'Arc.
Après avoir considéré le mystère de la mort du Christ, et le lien entre la mort du Christ et sa résurrection, dans la lumière de la parole du Christ, je suis la résurrection. C'est très fort cette parole, parce que c'est la personne. Ce qui touche Jésus et la résurrection. Notre foi dans la mort du Christ à la croix nous lie à sa résurrection. Sa résurrection nous est donnée, vous l'avez oublié, il y a là, pour le philosophe. La seule réponse adéquate à la mort. Et seul Dieu peut dire ça. C'est une des affirmations les plus fortes du Christ. Je suis le Fils de Dieu. On peut encore là discuter. Puisque tous ceux qui ont la foi et la grâce sont fils de Dieu. Tandis que lorsque Jésus dit « Je suis la résurrection », seul Dieu peut dire ça. Parce qu'il veut dire par là que dans son « Je suis », qui est sa personne, il est au-delà de l'opposition mort, vie. Il est donc la vie éternelle, ce qui est le propre de Dieu. Dieu seul est au-delà de la mort et de la vie. Donc Dieu absorbe la mort dans la résurrection. La mort n'existe pas en Dieu. Elle existe en Dieu par la mort du Christ. Mais métaphysiquement, la mort n'existe pas en Dieu, n'entre pas en Dieu. Donc, le caractère tout à fait propre de la vie chrétienne, c'est bien cette parole où est exprimé comment la mort est absorbée par la divinité de Jésus, absorbée par Dieu vivant qui n'est pas touché par la mort. Dans la parole de Jésus, je suis la résurrection. C'est évident que pour le philosophe, cette parole de Jésus est bouleversante parce qu'elle montre que Jésus nous délivre de la mort. Jésus. Jésus se situe au-dessus de la mort, parce qu'il est Dieu. Et que lorsque Jésus accepte de mourir, il est celui qui est la résurrection, qui va transformer la mort, la vaincre, dans sa propre vie, qui est divine, qui est celle d'un Dieu, qui est celle du Fils bien-aimé, qui est celle du Père. Donc, ce qui caractérise la vie chrétienne par rapport à toutes les autres éthiques, à la mort, tandis que l'éthique chrétienne est au-delà de la mort. Elle s'achève dans la résurrection du Christ. Elle s'achève dans la victoire de la vie sur la mort. C'est ça qui caractérise la vie chrétienne. Et donc, la mort est transformée par le Christ. Et dans l'éthique chrétienne, la mort est relativisée. Elle n'est plus un absolu. La mort n'est jamais un absolu au niveau métaphysique. C'est d'offrir sa vie. Donc, la vie ou la mort est absorbée dans l'adoration aimante du Fils à l'égard du Père. Et la réponse du Père, c'est la résurrection. C'est donc très important. Ne peut pas accepter la mort de quelqu'un comme un sacrifice. La mort n'appartient pas à l'homme. Donc elle ne peut pas être matière à sacrifice, à offrande. Elle est ce que l'homme subit. Comme homme, et l'homme comme chrétien, comme uni au Christ, ne subit plus la mort. Il a la liberté de l'offrir au Père. Comme fils bien-aimé de Dieu, s'est soumis à la mort pour nous en libérer. Jésus nous a libérés de l'esclavage de la mort. Et par le Christ et en lui, le chrétien est libre à l'égard de la mort. Il a cette sainte liberté à l'égard de la mort. Et dans le Christ, je suis libre à l'égard de la mort. Normalement, je dis normalement, le chrétien ne doit plus avoir d'angoisse à l'égard de la mort. Parce que l'acte ultime de confiance dans le Christ, c'est justement de s'abandonner complètement à lui par rapport à la mort. Jésus a été victorieux de la mort. Et donc, en Jésus, chaque chrétien est victorieux de la mort. Ça, je crois, capital. Au point de vue chrétien. Point de vue humain. Comment arriver à cela, à vivre déjà dès cette terre, de cette liberté? Cela doit être considéré tous les jours en acte, à propos de l'acte d'adoration que nous faisons. L'adoration en esprit et en vérité, donc avec Jésus, implique l'offrande de notre vie. Nous mourrons à nous-mêmes et à tout ce qui provient de nous. Nous mourrons à nous-mêmes pour ne vivre que de la volonté du Père sur nous. Je crois que c'est cela que tout chrétien doit vivre chaque jour. Et pas seulement d'une retraite, la conclusion de toute retraite chrétienne, c'est ça, et cette conclusion doit être vécue tous les jours. Et les béatitudes sont la voie étroite qui nous conduit à vivre ce sacrifice. Chaque béatitude est reliée à cela comme un moyen qui indique la voie à suivre. le moyen royal qui nous conduit à cette attitude foncière de la vie chrétienne. Alors, voyons maintenant les béatitudes évangéliques comme moyen de vivre le mystère de l'offrande. Comment nous pouvons entrer dans cette voie royale qui nous permet de vivre chaque jour de cette liberté totale. Tout se relativise grâce aux béatitudes. Toutes nos décisions humaines se relativisent. On les brûle. Nous n'avons aucun projet humain si nous sommes totalement chrétiens. Nous n'avons qu'un seul projet, celui de Jésus. C'est-à-dire aucun projet qui est propre à nous. C'est la vie du Christ qui s'empare de nous. Et qui s'empare de nous par les sept béatitudes. Les sept voies royales des béatitudes. Qui nous conduisent à cela. Mais nous sommes donc là, en terrain proprement chrétien. Il n'y a pas d'inculturation là, aucune. Parce que, en dehors du christianisme, les béatitudes sont impossibles. Donc on ne les vit pas. Humaniser les béatitudes, c'est impossible. Humaniser les béatitudes, c'est la plus grande bêtise. Voyez le. L'aspect du chrétien qui prétend que l'intelligence humaine doit se taire tout le temps. Ce qu'on appelle, point de vue de la lumière évangélique qui doit être notre unique lumière, la foi. Supprimer la philosophie, supprimer la sagesse philosophique au nom de la foi et des béatitudes. Vis-à-vis de ce terme. saint Matthieu. Voyant les foules, il monta dans la montagne. Et quand il se fut assis, ses disciples s'avancèrent vers lui. Et ouvrant la bouche, il les enseignait en disant : Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Voyant les foules, il monta dans la montagne. Jésus s'adresse aux foules. Pour tous ceux qui veulent le suivre, qui veulent être totalement à lui. Il ne s'adresse pas seulement à ses disciples. C'est très important, ça. Voyez ça. Au Parlement français, parler des béatitudes devant certaines lois qui peuvent s'ériger. Voir le caractère terriblement abrupt des béatitudes. Toutes les cultures humaines, africaines, européennes, américaines, indiennes, chinoises, toutes les cultures humaines en face des béatitudes sont en face d'une affirmation du Christ qui ne peut se comprendre que par le haut et non pas par le bas. Vous n'avez pas d'apologétique des béatitudes. Ce serait faux. Ce serait du fidéisme pratique. Et je crois que là, regardez, l'éthique chrétienne consiste à montrer cela. Certains ont voulu, pour faire accepter le point de vue chrétien, pousser jusqu'au bout l'apologétique. C'est-à-dire pousser l'humain jusqu'aux béatitudes. Vous ne pouvez pas faire que les béatitudes évangéliques puissent s'entendre comme une exaltation de l'homme. Et donc, comme quelque chose qui peut être vécu humainement. Les béatitudes ne peuvent pas être vécues humainement. Elles ne peuvent être vécues que divinement. Et le philosophe doit l'affirmer avec netteté. Et ce n'est pas uniquement pour les religieux, c'est à la foule. Jésus s'adresse. Alors, évidemment, ceux qui répondent sont souvent les religieux. La réponse officielle dans l'Église, c'est les religieux. Mais tous doivent vivre en esprit des béatitudes. C'est là le passage. Tous. Les chrétiens, puisque tous les chrétiens étant qui, lui, a vécu intégralement des béatitudes. C'était la vie de Nazareth. À Nazareth, on vivait des béatitudes évangéliques. Pas seulement en esprit. Mais en réalité, Marie en a vécu tout de suite. C'est pour ça qu'elle est immaculée. Pour pouvoir être celle qui vivait des béatitudes avant la venue du Christ. Et c'est par les béatitudes qu'elle devenait capable de la vie chrétienne, pleinement vécue, et capable de recevoir Jésus comme fils bien-aimé. Et au fond, on pourrait dire que les béatitudes sont à la fois l'aurore de la vie chrétienne et le terme de la vie chrétienne. De la vie chrétienne ouvert, la vie religieuse. Et la vie religieuse prenant possession des familles chrétiennes qui veulent aller jusqu'au bout des exigences de leur baptême. C'est pas pour rien qu'il y a Bethléem, qu'il y a Nazareth. C'est pour montrer que la vie chrétienne peut être vécue par étapes différentes. Il peut y avoir, par la grâce, baptême, par la grâce du mariage, une étape dans la vie chrétienne, qui est le foyer chrétien. Si ce foyer chrétien demeure ouvert à une étape ultime de la vie chrétienne, vive de l'esprit des béatitudes. Et vive des béatitudes. Ce qui doit être vécu chez les veufs et les veuves, dans la primitive église, c'était comme ça. Ils étaient considérés comme des religieux. Dieu permet ces étapes. Et Dieu bénit ces étapes. Et puis la vie religieuse, c'est de prendre tout de suite la dernière étape. C'est pour ça que la vie religieuse ne vous coupe pas de la vie chrétienne, mais elle vous fait vivre la vie chrétienne dans sa perfection. Donc, pour le philosophe, les béatitudes représentent ce qu'il y a de plus propre à la vie chrétienne. Et les béatitudes sont finalisées par le mystère de la croix du Christ et de la résurrection. À ce point de vue-là, les béatitudes sont, pour l'éthique chrétienne, quelque chose de capital. Il faudrait pouvoir écrire les béatitudes chrétiennes dans dans un regard philosophique de sagesse. Et voir à ce moment-là comment les béatitudes disposent l'homme moral à vivre la croix du Christ, à vivre de la résurrection. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Les pieds.